Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi à 17h30, vous retrouvez USTL Info. Aujourd'hui, eh bien, nous accueillons Patrick Cerniclet, qui est secrétaire général de l'ILIN. Bonjour Monsieur Cerniclet.
Bonjour René Lavergne.
Donc, l'Université de l'ILIN, on la présente chaque semaine sous ses différentes facettes. Vous, a priori, vous en maîtrisez à peu près tous les espaces.
Alors j'espère que j'en maîtriserai tous les espaces un jour, parce que pour l'instant je suis un petit peu jeune dans la fonction à l'Université de l'ILIN. Mm-hmm. Alors puisque je suis arrivé depuis le 1er février, donc c'est tout récent. Mais je suis un faux nouveau, puisque j'ai travaillé longtemps sur le campus et mon arrivée à l'ILIN, c'est en quelque sorte un retour aux sources, puisque j'ai travaillé longtemps à l'École centrale de Lille. Donc le campus, sans connaître l'université en profondeur, je connais le campus quand même.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences et aussi les relations entre un secrétaire général et un président d'université ?
Ah, ben voilà une bonne question. Le secrétaire général, si je me rapporte à la loi de 84 sur l'enseignement supérieur, qui est toujours en vigueur, il est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion de l'université. Donc le secrétaire général dépend complètement du président et en même temps, c'est son plus proche collaborateur, avec une mission qui est organisée autour de plusieurs axes, l'un qui concerne le conseil au président, en particulier en matière juridique, sur l'organisation, sur les textes, sur ce qui est possible de faire ou ne pas faire. L'autre, l'organisation des services et la direction des services. Donc dans le mot gestion, en fait, on peut entendre management. En fait, donc management, il y a un aspect financier, les personnels. L'ensemble des aspects qui font que tous les jours, une politique se traduit en action.
C'est un petit peu comme un maire et un secrétaire général de mairie ?
Un directeur général des services de la mairie,
directeur
oui.
Général voilà. Des services. Quand on pense directeur général des services, on pense aussi directeur du personnel, c'est un peu lié ?
C'est dans la fonction. Dans les aspects du management, on trouve donc... l'ensemble des aspects d'organisation et de fonctionnement des services. Donc une grande université comme l'Université de l'ILIN, on va trouver des fonctions de scolarité, de gestion, les fonctions régaliennes, si vous voulez, c'est-à-dire des finances, du personnel, la recherche, la scolarité, les relations internationales. Donc l'ensemble de ces activités, rien ne m'est étranger, a priori. Mais il est bien évident qu'on s'investit davantage dans un domaine plutôt que dans un autre, en fonction du président, en fonction de l'organisation, de la gouvernance. Et je viens d'une autre université où la gouvernance était, par exemple, organisée assez différemment de celle de l'ILIN.
D'accord. Néanmoins, il y a des textes pour toutes les universités qui dépendent du ministère, je pense.
Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que par rapport au métier, on s'investit plus particulièrement dans les secteurs sur lesquels le président ou la gouvernance vous oriente. Mmh. Le président me dit, bon, travailler davantage sur le patrimoine, par exemple, j'ai travaillé sur le patrimoine, et un peu moins sur la recherche ou sur autre chose, en termes de gestion, encore une fois. On ne fait pas de politique. Hein, la politique appartient aux élus. Mais les textes qui s'appliquent, naturellement, mon travail, c'est de les connaître. Alors, Alors, il y en a énormément. On vit dans un monde qui se complexifie, donc on ne sait pas tout, mais il faut être à peu près à jour. Et en tout cas, pouvoir trouver très rapidement les textes qui s'appliquent sur une question ou sur un sujet qu'on doit aborder.
Pour retrouver ces textes, on travaille avec Internet, intranet, ou il faut avoir les bouquins
Très largement sur Internet. Hein. Mmh. D'abord, on fonctionne en réseau avec les autres secrétaires généraux. Mmh. Il faut surtout se tenir à jour de l'actualité, c'est-à-dire ne pas passer à côté de quelque chose. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu ça, pour ne pas être trop général dans les propos. Il y a eu toute une évolution sur la réglementation de la TVA dans les universités. Et dans un poste antérieur, cette évolution de la TVA, on l'a perçue avant que le texte soit publié. Mais au moment où le texte a été publié, par un effet de conjonction astrale malheureuse, on n'a pas pris conscience qu'il fallait en déduire que certaines dispositions devaient être modifiées et qu'il y avait donc des conséquences en termes d'organisation. Mmh. Et on est passé à côté de quelque chose sur la TVA. Et ça aurait pu avoir fiscalement des conséquences relativement importantes.
Donc il y a une espèce de cellule de veille entre secrétaires généraux des universités, avec alerte éventuelle?
Oui, actuellement, l'actualité, par exemple, c'est tout ce qui sort autour de la loi responsabilité, liberté, responsabilité des universités. Il y a toute une série de textes, de décrets d'application qui sont sortis ou qui vont sortir. Il faut être à l'écoute, il faut regarder le journal officiel tous les jours. C'est un aspect du métier. L'autre aspect aussi, par rapport à l'information, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient très pointus. Le secrétaire général, c'est un généraliste, donc il doit être un peu informé sur l'ensemble des domaines. Et puis les chefs de service sont des spécialistes dans leur domaine. Donc, je sais pas, Françoise Delettré dans le domaine de la gestion des personnels. Si d'aventure un texte est passé sans que je le voie, dans son travail, elle doit m'alerter en disant « Attention, il y a un décret sur les comités de sélection qui va sortir. » Celui-là, je le connais, mais ce texte va sortir d'ici quelques jours. Attention, monsieur Cerniclet, il faut regarder ensemble quelles conséquences ça peut avoir.
Mmh. Alors, donc vous aviez dit qu'une politique n'est pas forcément une autre. Au changement de président, il peut y avoir des modifications stratégiques, on va dire, de l'université. Est-ce que vous voyez là des grands thèmes qui vont amener des chantiers, les chantiers de l'avenir de l'université?
Alors, vous comprendrez que déontologiquement, je ne peux pas parler de politique, ça appartient aux élus.
Bien sûr, oui.
Moi, mon métier, avec l'ensemble des collègues qui travaillent pour l'administration, les ITRF, l'ASU, etc. de l'université, on est dans un domaine d'application de textes et de mise en œuvre. Alors, mais je peux quand même vous parler des changements qui, indépendamment de l'aspect politique des décisions d'orientation politique d'université, des changements qui affectent à la fois globalement la fonction publique, plus particulièrement l'enseignement supérieur. Et c'est lié très directement à l'évolution de notre époque. Quand on regarde dans le rétroviseur sur les un peu plus de 10 ans, 12 ans, Internet qui est arrivé et qui constitue un changement très très profond, vraiment radical, dans les méthodes de travail, dans les outils, dans la relation hiérarchique, dans la circulation de l'information, et l'information quelque part c'était le pouvoir auparavant, ça l'est toujours. Cet aspect-là a vraiment transformé et va encore plus transformer nos méthodes de travail dans le futur. Je me souviens du premier ordinateur que j'ai fait installer dans mon secrétariat, où à l'époque ma collaboratrice n'avait pas trop envie de quitter sa magnifique machine à boule IBM. Ça rappellera des souvenirs à certains. Et aujourd'hui, l'informatique, les ordinateurs, ça fait partie de... On n'en parle même plus, quoi. Ça fait partie de l'air du temps. On a des tas de gadgets électroniques sur soi pour vivre au travail. Et très profondément, l'administration globalement va rentrer dans une phase là où on est... je ne sais pas s'il faut l'appeler e-administration ou développement ou évolution informatique numéro 2 ou numéro 3. Un petit peu comme il y a Internet 2, 3 et autres. Mais je vais vous donner des exemples, ce sera plus facile pour d'illustrer. Sur la gestion des ressources humaines, par exemple. On peut dire qu'il y a eu une époque où on était papier, crayon, gomme. C'est-à-dire qu'on tenait les fiches à la main. Ensuite, arrivée de l'informatique, On est passé sur des tableurs multiplans Excel, puis sur des applications maison avec des développeurs qui ont fait des produits. Puis, alors, peut-être que c'est l'étape numéro 3, des grands produits de gestion. Ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Pour la gestion dans les universités, majoritairement, c'est Arpège qui est utilisé. Il y a un Arpège 2 qui va arriver. Et puis, pour demain, mais c'est un demain qui va démarrer en 2009, et sur la période 2009-2011, on va vivre une espèce de révolution qui va faire que, là où aujourd'hui, un fonctionnaire, un agent de l'État, quel qu'il soit, quelque fonction publique qu'il soit, est géré par son établissement avec un dossier qui est dans l'établissement, ce qui veut dire que si aujourd'hui vous êtes infirmier au CHU et que demain vous êtes infirmier à l'université, vous avez deux dossiers, il y a une liaison papier qui s'établit avec des papiers qui peuvent se perdre, avec des dossiers incomplets, avec des reconstitutions de carrière difficiles pour des gens qui ont une mobilité importante. Bref, vous voyez, notre informatique d'aujourd'hui, elle souffre d'appartenir à un propriétaire local, on va dire. Mm-hmm. Vous existez, j'existe quelque part dans une base chez Madame Delettrait, là, au service du personnel. Mais voilà, si je pars, je viens de Bourgogne, Dijon a envoyé un dossier et ce n'est pas un dossier électronique. Demain, il y a un grand programme qui s'appelle Sirène, qui est en cours de développement. C'est un énorme projet interministériel, enfin en tout cas enseignement supérieur, mais dans le cadre d'une démarche interministérielle. Et pour tous les agents publics, il n'y aura plus qu'un seul dossier complètement dématérialisé et qui va exister indépendamment de l'emploi.
Mmh. Alors, ce que vous nous dites, c'est un peu comme les associations qui ont un numéro de SIRET, un numéro de sirène. Ça me fait penser un peu à ça.
Ça ne veut pas dire qu'on perd la notion de gestion individualisée, la liberté de choix politique dans les arbitrages qu'on doit rendre, ou la liberté de gestion qu'on peut avoir lorsqu'on est responsable de gestionnaire de personnel. Mmh. Mais ça veut dire que, aujourd'hui, par exemple, vous avez un droit à l'information sur la retraite. Mmh. Je peux vous dire que pour des gestionnaires comme moi, pour un secrétaire général, c'est extrêmement difficile d'appliquer la réglementation parce que c'est le dernier employeur, c'est l'employeur où vous êtes aujourd'hui qui a la charge de constituer ce dossier. Et donc, pour quelqu'un qui se serait baladé dans
les reconstitutions de
10,
carrière.
15 établissements, reconstituer une carrière comme ça, mmh. c'est hyper difficile.
Bien sûr.
Donc demain, la totalité de vos emplois, vos postes successifs, toute votre vie professionnelle sera dans un dossier unique qui veut dire que la base, par exemple, l'arpège de l'université va évoluer et que les nomenclatures, les tables, les bases qui sont à l'intérieur, elles seront organisées de telle sorte est-ce que les informations soient dans un format utilisable par cette base nationale qui permet de suivre un fonctionnaire d'un emploi sur un autre.
C'est un petit peu ce qu'on a vécu et qu'on vit encore avec la carte vitale, par exemple.
Je connais moins bien, mais oui, c'est en fait, dans ce développement de l'administration électronique, on est en train de passer à un stade différent, à un stade d'intégration des données, on va dire, de telle sorte que les produits, si je reviens sur l'université, dans la période qui s'achève, là, dans mon propos, on a vécu sur des produits différents qui avaient beaucoup de mal à être connectés entre eux et qui ne sont pas interopérables. Donc l'interopérabilité, c'est un concept très très fort en termes d'informatique et ça doit guider notre action de telle sorte à ce que demain, on puisse ne saisir l'information qu'une seule fois et qu'elle soit absolument fiable. La fiabilité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et donc une information financière, elle doit être dans un seul produit. Au 1er janvier 2009, ce sera SIFAC. On abandonne Nabucco. Si c'est une information sur les personnels, elle ne doit pas se trouver, par exemple, dans une partie recherche pour la partie recherche de l'activité et dans une partie personnelle pour la partie personnelle de l'activité. L'individu, il est créé dans Arpège et l'appartenance à son laboratoire, elle doit figurer dans Arpège et c'est le produit recherche qui va aller chercher l'info saisie une seule fois dans Arpège.
Mmh. Alors, on a vu là, techniquement...
C'est un peu rébarbatif.
Non, j'ai bien compris. Non, mais c'est intéressant de voir techniquement comment on peut gérer une situation ou des personnels. Si on parle maintenant de relations... de relationnel plutôt dans l'université. Qu'est-ce qui compense cet aspect un petit peu informatique ou technocratique des choses? Les gens ont besoin de liens sociaux aussi au niveau de l'université. Est-ce que c'est aussi une préoccupation d'un secrétaire général?
D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas technocratique. Certes, ça a un aspect technique important, mais c'est quand même c'est destiné à faciliter la vie de tout le monde, et d'abord de l'usager. Parce que celui qui se trouve face à un dossier de reconstitution de carrière dispersé, puisqu'on a pris l'exemple de la gestion de personnel, on aurait pu prendre un autre exemple, c'est quand même un peu kafkaïen parfois. Donc se dire en perspective que ce sera beaucoup plus simple demain, c'est quand même mieux pour l'usager. Et puis on peut se dire aussi que si les choses sont plus facilement gérées, on aura un peu plus de temps pour s'intéresser aux gens qui ont des problèmes. Parce que là, aujourd'hui, si on est complètement dans le guidon, on a moins de temps pour recevoir les gens et pour s'occuper de leur situation personnelle. Et quelque part, c'est comme, il y a 50 ans ou il y a 100 ans, le téléphone. Je veux dire, l'évolution technologique, elle est inéluctable. On ne peut pas ne pas vouloir entrer dans cette évolution-là, puisqu'elle nous dépasse. Enfin, on est obligé de la suivre. On ne pourrait pas dire, je n'ai pas envie de travailler comme ça. On est obligé de suivre. Donc, dans mon travail, cet aspect accompagnement de l'évolution, conduite du changement, c'est un aspect extrêmement fort. À la fin du mois, le 29 avril, j'organise une grande réunion avec toutes les personnes qui s'occupent, qui interviennent de près ou de loin dans le domaine financier, pour l'arrivée d'un nouveau produit, CIFAC, qui a une responsable de projet qui est Catherine Sion. Ça va constituer un très gros changement dans l'université. Et donc, cette réunion, c'est le lancement. Alors, c'est piloté par un vice-président, j'ai oublié de le dire, qui est Francis Meillet, VP qualité. Mais donc, c'est un rôle pour le secrétaire général d'accompagner le changement, de le conduire de telle sorte à ce que chacun puisse se situer, sache ce qui va changer et ne soit pas inquiet. Dans un changement, il y a toujours une partie d'inquiétude, puisqu'on passe d'une habitude à de nouvelles habitudes. Il faut faire que ces habitudes se prennent bien.
D'accord. Donc, au niveau de certaines universités, je pense pour l'étudiant lambda, ce qui compte pour lui, bien sûr, c'est les cours, c'est aussi les conditions d'accueil, et parfois, ça joue à très peu de choses, la notoriété d'une université par rapport à un étudiant, c'est parfois comment on est accueilli par le personnel qui est simplement au guichet à l'accueil. Je connais un pôle universitaire d'une grande université de la région, où les étudiants me disent toujours « Ouais, qu'est-ce qu'elle est désagréable, la secrétaire ?» Je donne un exemple comme ça. Ouais. Mais quelque part, ça peut aussi déterminer parfois quelque chose de plus engageant, de plus lourd que cette simple approche.
Ça, c'est une difficulté très profonde. Parce que vous voyez, là, on a beaucoup parlé de technique dans les premières minutes des entretiens, de conduite du changement. Ça n'est pas que le produit, c'est surtout les individus. Vous savez, le changement, c'est d'abord les personnes qui l'opèrent, qui en ont la responsabilité. Et je pense que l'individu est tout à fait au centre de la relation avec l'usager. Et comme vous le disiez, une université sympathique, c'est d'abord une université qui est sympathique par ses personnels et par l'accueil qu'on assure, ici par exemple, aux étudiants. J'étais directeur du Crous de Lille il n'y a pas si longtemps. C'était une dimension que j'ai vécue aussi très profondément, parce que quand on doit dire non aux gens pour une prestation, pour une bourse, pour un logement, pour quoi que ce soit, il y a manière de le dire. Et la façon dont on l'explique, ça permet que cette décision dont on n'a pas forcément la maîtrise, ou qu'on n'a pas un logement à offrir forcément à tout le monde en toutes circonstances, ça permet qu'elle soit mieux acceptée, en tout cas comprise. Et donc, mettre la bonne personne au bon endroit, ça, c'est un enjeu de la gestion des personnels.
On voudrait retrouver Bienvenue chez les Ch'tis aussi dans les personnels partout, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Parce que comme on en a maintenant l'image, autant être à la hauteur.
Oui, c'est un aspect des choses qui n'est pas à négliger. Encore une fois, les personnes, c'est la gestion des personnels au sens la bonne personne dans le bon emploi, c'est tout à fait fondamental.
Je vous donne un exemple. Je suis revenu l'autre jour de Paris, j'ai pris l'autoroute et je suis sorti à la sortie à Arras-Télu, vous voyez. Et curieusement, j'ai pensé à ce film, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais que je vais voir bientôt, parce que la personne que j'ai eue à la sortie de l'autoroute, quand j'ai payé, m'a dit très gentiment bonjour, etc. J'ai senti qu'il y avait un rapport entre être à la hauteur de l'image que la région peut se donner ou se donne. Oui,
ouais, je partage tout à fait votre point de vue là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas simple, parce qu'il faut faire avec les gens qu'on a. puis ça, alors c'est vrai sur un poste d'accueil, mais il faut aussi avoir, en plus de s'ouvrir, il faut avoir la compétence.
Donc j'imagine que chez vous, la formation en interne, c'est quelque chose d'important.
Il y a un service de formation qui fonctionne bien. J'ai rencontré sa responsable, Mme Leclerc. Je pense qu'on va continuer à... Le plan de formation est déjà très important ici. De là où je viens, de la Bourgogne, je l'avais musclé énormément parce que je pense que c'est par la formation qu'on fait accepter ces changements d'outils, de méthodes. Voilà. Le sourire dont vous parlez, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut sensibiliser les gens en leur expliquant que, quelque part, ils portent l'image de l'université hein, et de son accueil. Quand on reçoit des étudiants français ou étrangers, un sourire, ça commence bien. Quoi. Mm-hmm. Si étant, pour revenir aux aspects techniques, quand j'étais directeur du cours, j'ai mis en place des outils qui étaient des outils de confort et de service pour les étudiants, ça va au-delà du sourire, parce que le sourire, c'est pas tout. Si on dit non avec un sourire, c'est quand même un non, c'est une réponse négative. Et donc, le Crous, par exemple, a eu, le Crous de Lille était le premier à avoir une consultation en ligne sur le web du dossier de bourse, des applications sur le logement étudiant, il y a une centrale de réservation en ligne, la carte pour passer au Crous, la carte de paiement lorsque vous allez au Resto U, à Barrois, par exemple. Avec une carte monétique, bon, sont des éléments qui sont destinés à faciliter la vie.
J'ai trouvé qu'on mangeait bien Barrois depuis. Enfin, j'y suis retourné ce midi par hasard à l'invitation d'un étudiant et ça faisait bien 30 ans que j'étais pas allé. J'ai trouvé que c'est bien, on a bien mangé.
Bah écoutez, moi je ne suis plus au Crous, mais je suis toujours un usager, un habitué du Crous où je vais à Barrois, à Parisel un petit peu moins parce que c'est moi ma destination, où je vais aussi au Sully.
Ah, c'est au Sully, pardon, je confonds. Je suis allé au Sully tout à l'heure. Parce que le Barrois était fermé, je pense, pendant les vacances.
Voilà, c'est le Sully qui est ouvert cette semaine.
Voilà, tout à fait. Ouais. Bon, autant être précis et rendre à César ce qui appartient à
mais
César.
Bon, en général, les personnels vont au Barrois, puisqu'il y a une salle dédiée au personnel.
D'accord. Donc, si on parle de ce qui peut éventuellement vous préoccuper dans les 4 ans, 3, 5 ans, qu'est-ce qu'il y a où vous voudriez sensibiliser un peu les gens au-delà de cet aspect informatique
hein. Encore une fois, l'informatique, ça n'est qu'un outil. Hein. Mm-hmm. L'essentiel, c'est d'avoir une organisation qui soit performante, c'est-à-dire de bien répondre. Vous savez, on est évalué maintenant de partout, hein, par le ministère, par l'inspection générale, on est contrôlé. On doit rendre beaucoup de comptes. Ça aussi, c'est une... Plus on nous revendique, plus on nous parle d'autonomie, et plus on doit rendre des comptes. Alors, c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est comme ça.
On peut peut-être expliquer ce qu'est l'autonomie telle qu'on... Bon, on a parlé d'autonomie, d'un autre côté de décentralisation ou de déconcentration. Si on fait un peu un point en temps réel.
Alors, la déconcentration, c'est l'autorité, c'est l'État ou le ministre qui délègue certaines de ses compétences, certains de ses pouvoirs à une autre autorité. Mmh. En l'occurrence, le président de l'université, pour certains actes de gestion, par exemple pour les personnalités RF, depuis le mois de mars, on doit être responsable de la mise en disponibilité, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que, quelque part, on rapproche la décision du gestionnaire local. C'est aussi du travail supplémentaire. Mais... Donc ça, c'est de la déconcentration d'actes de gestion.
Décentralisation ?
La décentralisation, ça ne nous concerne pas trop. C'est plutôt sur les collectivités, la décentralisation. Donc on est un peu à l'écart de... Enfin, la décentralisation, c'est pas directement pour nous. Mmh. On en subit ou on vit avec la décentralisation, puisque l'augmentation des compétences des collectivités, de la région, etc., ça a forcément un impact sur l'université.
Mmh. La région a soutenu certaines universités, notamment les nouvelles, dans leur construction, l'accompagnement peut-être des étudiants.
Oui, non, mais je parlais au niveau de nos compétences, d'accord, si vous voulez. D'accord, on a des compétences supplémentaires par la déconcentration de pouvoir, d'accord. Pas par la décentralisation. Mmh. Alors, l'autonomie, hein, c'était la deuxième partie de la question. Mmh. L'autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... par la loi, la LRU en particulier. Donc nous allons avoir la responsabilité, avant 5 ans, de gérer la masse salariale et un plafond d'emploi. Et globalement, l'évolution des choses, quelle que soit la loi, c'est de dire aux organismes publics, on vous donne une somme globale, vous prenez la responsabilité de sa gestion et vous rendez des comptes sur les objectifs que vous avez atteints ou pas atteints. Donc ce cadre-là, ça nous oblige, nous gestionnaires, à être meilleurs dans notre gestion au quotidien. Mm-hmm. Par exemple, pour gérer de la masse salariale, il faut faire de la prévision, savoir mois par mois ce qu'on va dépenser, si on a dépensé ce qui était prévu, et mettre ça en rapport avec des emplois. Mm-hmm. Un emploi, ça représente une masse salariale donnée. Il y a des gens qui progressent dans la carrière, des gens qui s'en vont, qui arrivent, etc. Donc tout ça, il faut faire un beau melting pot, faire un prévisionnel et le suivre. Et faire que chacun, chaque mois, a sa paye exacte au centime d'euro. Mmh.
Je vais peut-être poser une question idiote, mais qu'est-ce que peut faire un étudiant ou des étudiants pour vous aider à...
Sur ce registre-là, pas grand-chose, honnêtement. Mmh. Hein, parce que là, on est vraiment dans la technicité très très forte. Et ce sont des décisions, là, pareil, de secrétaire général, mais une proposition du secrétaire général au président en matière d'organisation pour gérer la paix, pour la fiabilité. On parle beaucoup de contrôle interne, par exemple. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, on vous donne des compétences supplémentaires, on déconcentre les actes de gestion, mais vous avez un contrôle plus fort à exercer par vous-même et les corps de contrôle externes. Dans la loi, il y a le recteur qui a des pouvoirs supplémentaires de contrôle, par exemple, sur les aspects financiers, mais où les inspections générales des finances, etc., viennent vous voir et regardent si vous faites les choses comme il faut.
Alors, à l'inverse, si les étudiants ne peuvent pas vous simplifier la vie, est-ce que vous pouvez simplifier la vie des étudiants ?
Simplifier la vie des étudiants, dans le domaine de la scolarité sur les contenus, c'est pas tout à fait ma mission principale. Hein. Mmh. Moi, si vous voulez, ma mission, c'est de veiller à ce que le service de la scolarité fonctionne correctement et puisse avoir les personnels là où il faut et puisse remplir ses missions. Les contenus de programme, etc., sont les enseignants-chercheurs, hein, chacun sa part de responsabilité. Faciliter la vie des étudiants, c'est avoir, par exemple, encore une fois, j'aime beaucoup l'administration électronique, avoir une offre de formation très lisible, très claire, facilement accessible pour savoir comment sont organisés les contrôles, quels sont les débouchés associés à une formation, qu'est-ce qu'on fait dans une formation où on trouve une information à jour sur sa licence ou sur son master, des choses comme ça.
Il y a encore beaucoup d'étudiants qui disent qu'ils souhaiteraient être davantage aidés sur les orientations à prendre. Ils n'ont pas l'impression d'avoir un suivi suffisant ou du moins des propositions quant à des orientations par rapport à leurs compétences ou à leur niveau de formation.
Ça, c'est un grand chantier qui est conduit par Salah Maouche et Michel Ojeder, en particulier les VP formation, sur la réussite en licence et sur l'accompagnement étudiant. Donc là, pareil, moi, en tant que secrétaire général avec les services administratifs, je vais être en soutien de leur action en termes de moyens en personnel ou d'organisation, etc. Mais ces décisions-là, elles leur appartiennent. Hein. C'est une décision qui passe dans les conseils, c'est vu, c'est etc. Et là-dessus, l'université met en place un plan réussite en licence pour faire que, justement, les étudiants se retrouvent mieux dans ce schéma LMD qui est quand même un peu complexe, puisqu'on a quitté des formations qui étaient extrêmement identifiées aux UFR pour avoir des formations qui sont aujourd'hui transversales, transversales aux UFR, dans lesquelles on peut avoir un parcours un petit peu à la carte. Donc, ça n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Et là, le rôle de l'administration de l'université, c'est encore une fois d'offrir des choses très accessibles, très lisibles, claires, pour savoir ce qu'on peut faire avec ses crédits ECTS, en ayant passé à L1, L2, vers quel L3, de L3 vers un master, etc.
En même temps, on sent bien la préoccupation, on en a parlé la semaine dernière, par exemple, comment accompagner des étudiants qui vont à l'international, bien pas faire d'erreurs sur l'endroit où ils vont arriver, et même dans le pays, quelle est l'université qui correspond mieux à leur formation, même à leur état d'esprit ou à leur psychologie.
Mais voyez, là-dessus, il faut avoir des personnels dans les services. On a la chance à l'université de Lille 1 d'avoir un service relations internationales qui est très costaud, avec des gens compétents qui ont de l'expérience, qui se déplacent beaucoup pour aller chez les autres, pour voir comment ça se passe. Et donc, ils sont à même d'apporter des conseils. Et ça, vous voyez, c'est de la plus-value. C'est un apport conséquent qu'on peut donner à nos étudiants.
Bien, monsieur Patrick Cernicle, je vous remercie beaucoup. Très bonne soirée.
Merci à vous.